RMC After Galaxy, le podcast.
Nicolas Villas.
On arrive, bienvenue dans votre podcast After Galaxy. Merci d'être avec nous, merci de nous suivre, de vous abonner aussi. Suivez-nous et surtout écoutez ceux que vous avez peut-être loupés. Écoutez les tiens à la plage cet été, pourquoi pas si vous partez en vacances pour ce dernier épisode de la saison. Nos drôles de dames sont là. Salut Paulo Breitner.
Bonjour Nico, bonjour tout le monde.
Salut Johan Crochet.
Bonjour à tous.
Salut Julien Laurence.
Salut Nico, salut à tous.
Et hola Fred Hermel.
Hola chicos.
Merci d'être là les gars, c'est déjà la dernière de la saison. Voilà. Ouais, podcast After Galaxy qui a très très bien fonctionné d'ailleurs. Merci à tous de nous suivre. Merci à tous ceux qui nous rejoignent et qui découvrent ça également. Et pour cette dernière de la saison, on va se faire un focus sur les promus aussi de vos championnats respectifs. À l'issue de la saison qui vient de s'écouler, on s'est thématisé ça à la sauce Galaxy. En Angleterre, on va commencer par là. Les promus sont Fulham, Bournemouth et Nottingham Forest, qui s'est qualifié après avoir battu Huddersfield en finale des playoffs. Et après 23 ans d'attente, Forest retrouve donc l'élite du foot anglais. Alors Julien, ce retour était plus vraiment attendu ainsi en Angleterre.
Non, c'est vrai, tu as raison. Alors cette saison encore moins, puisque à la fin du mois de septembre, ils étaient derniers du championship. Mais même sur les dernières années, c'est vrai que ça a été une très longue attente pour un des clubs les plus historiques d'Angleterre. Longue attente parce qu'ils se sont trompés dans le recrutement, dans les entraîneurs, dans même au niveau du propriétaire et de ça a beaucoup changé. Il y avait beaucoup d'instabilité. Je pense que c'est aussi un club qui vivait dans le passé beaucoup, comme souvent d'ailleurs hein, dans les très grands clubs ou dans les grands clubs. Dans tous nos pays, où tu cours un petit peu après ce passé et ton histoire finalement, et ça te dessert plus qu'autre chose. Mais c'est vrai que cette saison-là, quand ils sont derniers à la fin du mois de septembre, quand ils changent d'entraîneur et que Steve Cooper, le Gallois, arrive, personne ne peut se dire à ce moment-là, même pas Cooper, même pas Marinakis, le propriétaire grec, même pas les supporters, qu'à la fin de la saison, ils seront en Première Ligue. Et c'est vrai que ça a été une saison incroyable. Un retournement de situation complet et c'est vrai qu'ils le doivent en grande partie à Cooper mais aussi je pense à un public fantastique et puis à une génération qui arrive très très talentueuse.
Alors il faut que tu nous parles justement de ce manager, hein, le Gallois Steve Cooper, qui a un parcours assez atypique, surtout d'ailleurs quand on voit les parcours types, on va dire, des entraîneurs britanniques ou des entraîneurs en Angleterre d'une façon générale, hein.
C'est vrai, tu as raison, il a 42 ans, donc ça reste un entraîneur assez jeune et encore plus jeune, si tu veux, dans l'expérience qu'il a, puisqu'à part les deux saisons à Swansea où il avait fait plutôt du bon travail, entre 2019 et 2021, ils avaient quand même emmené en play-off. Alors les play-offs, ce n'était pas passé comme il l'aurait souhaité, mais c'était quand même plutôt positif, voire même très positif pour une équipe comme Swansea, par exemple, avec peu de moyens finalement. Et avant ça, surtout, c'était un entraîneur d'équipe de jeunes. Et c'est là vraiment où il a brillé, à Liverpool notamment, où il avait fait du très très bon travail chez les jeunes, avec l'Angleterre également, où il a quand même accompagné, guidé, formé des jeunes générations, les U16, les U17 qu'il avait eu avec lui, qui avaient eu des très bons résultats. Mais c'est vrai que je pense qu'il a eu un petit peu de mal aussi à franchir le pas entre être un très bon entraîneur de jeunes, avoir cette relation avec son vestiaire, avec ses jeunes joueurs, et puis après être capable de passer un palier, si tu veux, pour aller chez les pros, en équipe première, en championship, qui est quand même un championnat très compliqué, très difficile, très long aussi, très fatigant, avec beaucoup d'intensité, et avoir des très bons résultats là aussi. Et je pense que quand lui passe l'entretien pour être entraîneur de Nottingham Forest, il n'est pas dans les favoris, mais je pense que ce qui l'a aidé, c'est qu'il y avait cette jeune génération comme le Brennan Johnson, dont on parlera tout à l'heure, à Forest, qui est en train d'éclore à Nottingham. Et ils ont fait le bon choix avec Cooper parce que justement, il a su amener les jeunes et développer les jeunes joueurs du club, mais aussi se mettre bien avec les joueurs un peu plus expérimentés. Il a été très intelligent dans l'équilibre du vestiaire. Et puis après, c'est un entraîneur qui a des idées très, très intéressantes, notamment dans la défense à trois et dans la structure, dans l'organisation tactique. Et c'est vrai que ça a pris très vite en fait, et c'est ça qui l'a beaucoup aidé aussi. Et puis après, Cooper, c'est vraiment le héros inattendu assez incroyable de cette saison de Nottingham.
Alors, il faut s'attendre à quoi du coup pour Forest en Première Ligue, sachant que tu faisais allusion à lui il y a quelques instants, le propriétaire, hein, Marinakis, qui est aussi le proprio de l'Olympiakos, il a promis d'investir, hein, pour ce grand retour de Nottingham Forest en PL.
Ouais, et puis ils sont un peu obligés quand même, hein. même si c'est toujours difficile quand t'as une équipe et un groupe comme ça qui t'amène en première ligue, qui monte, on l'a vu plusieurs fois par le passé. Si tu veux trop changer, ben ça se retourne contre toi parce qu'il y a eu trop de changements. Si tu veux pas assez changer, tu te rends compte que l'effectif qui est monté du Championship à la première ligue est finalement pas assez fort pour rester en première ligue. Donc il faut des ajustements, il faut se renforcer un petit peu. Ils ont déjà signé un joueur que Polo connaît bien, Awoniyi, à l'Union de Berlin, que Cooper connaissait déjà des équipes de jeunes de Liverpool, qui a fait une très bonne saison en Bundesliga, qui, je pense, peut très bien convenir à la Première Ligue et très bien convenir au système de jeu de Forest. Et puis après, on verra, on attend d'autres recrues. Mais encore une fois, il faut pas te tromper, même s'ils ont de l'argent, c'est bien, mais il faut aussi faire confiance aux joueurs qui t'ont permis de monter. Et encore une fois, un Brennan Johnson qui a 21 ans, qui est vraiment bourré de talent, qui est un jeune international gallois, qui est rapide, qui est ambitieux, qui est techniquement est très, très au-dessus de la moyenne. C'est aussi sur ces joueurs-là que tu vas devoir t'appuyer. Donc ça va être compliqué, bien sûr, ce sera toujours compliqué. Et pour Fulham et pour Bournemouth aussi, pour tous les promus en Première Ligue. Mais s'ils arrivent à dépenser l'argent intelligemment, je pense que ça peut être intéressant.
Nottingham Forest va donc effectuer son grand retour dans l'élite du foot anglais la saison prochaine. En Italie, le comeback s'appelle Cremonese. Les Grigiorossi et leur maillot rayé gris et rouge retrouvent la Serie A pour la première fois depuis 1996. Et alors là, Johan, peut-être encore plus que pour Forest, hein, qu'on a évoqué il y a quelques instants, c'est une saison inattendue qu'a connue la Cremonese également.
C'est une énorme surprise. Vous savez, en Italie, c'est un pays de tradition. Il y a une tradition qu'on a dans le football, c'est qu'en début de saison, on fait une espèce de grille, comme une grille de F1, et on essaye de placer les clubs, voilà, du premier au 20e. Et très sincèrement, je pense qu'à peu près personne n'avait mis la Cremonese en montée directe, voire même dans les premières places des playoffs, parce que il y a une raison évidemment historique, c'est qu'il y a très peu de saisons de Serie A en 119 ans d'histoire, il y a cette saison. Il y a aussi une raison liée à l'effectif, c'est un effectif qui a été très chamboulé l'été dernier, il y a beaucoup de jeunes joueurs prêtés par des grands clubs, et la question, évidemment, quand tu as beaucoup de jeunes joueurs prêtés et qui arrivent tous en même temps, il y a une question autour de la cohésion d'un groupe jeune qui a très peu d'expérience, comment réussir cet amalgame dans un groupe qui est chamboulé, donc ça c'est les dynamiques de vestiaire, et puis il y a aussi la question terrain, c'est-à-dire que quand tu changes autant de joueurs sur ton 11 de départ, il va falloir du temps, les fameux automatismes, les habitudes, les routines à prendre entre joueurs. Donc la Cremonese, elle a commencé un petit peu plus doucement que la fin de saison en boulet de canon. Elle était finalement que 8e. Alors en Italie, les playoffs, c'est un peu particulier. Les premiers, deuxièmes montent directement. Ensuite, du 3e au 8e, il y a des playoffs. Et ils étaient 8e, dernière place des playoffs à la 15e journée. Et puis finalement, ils sont montés directement. Donc c'est évidemment une montée surprise. C'est évidemment aussi la valorisation des jeunes joueurs. Vous savez qu'il y a tout un débat en Italie, non qualification à la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'on fait de nos jeunes? Est-ce qu'on doit les faire jouer, plus les faire jouer en série B? On les prête, mais parfois ils jouent pas, etc. Là, tout a été validé dans une énorme surprise. Et finalement, il y a aussi un petit côté historico-romantique. C'est-à-dire que c'est un club qui a connu la Serie A dans les années 80-90 et on est finalement assez content de la retrouver en Serie A.
Alors, qui sont les références de ce club d'ailleurs? Pour que tu le présentes un petit peu, beaucoup ne le connaissent pas, hein, ce club de Cremonese.
Alors, évidemment, la personnalité la plus connue, c'est Gianluca Vialli, qui avait des cheveux à l'époque. Oui, oui, ça arrive. Il a débuté à la Cremonese au début des années 80, donc en Serie B, jusqu'à faire monter le club en Serie A à moitié des années 80. Mais il y a pas mal de joueurs connus. On n'a pas forcément en tête le fait qu'ils soient passés par la Cremonese. Je vais vous en donner un des plus récents, Salvatore Sirigu, qui évidemment tout le monde connaît. Bah, sa première saison professionnelle, quand il est prêté par Palerme, c'est à la Cremonese. Il y a un joueur que vous connaissez un peu plus, alors c'est peut-être plutôt les quarantenaires, c'est Antonio Cabrini, champion du monde 82, qui faisait partie de la très grande défense de la Juve. Vous aviez Cabrini à gauche, Gentile à droite, Zoff dans les buts, Chiréa en défense, etc. Ça c'est un joueur qui est évidemment encore aujourd'hui très très souvent consulté pour des avis sur des joueurs, sur la compétition, etc. Enrico Chiesa, le père de Federico. Alors maintenant on dit que c'est le père de Federico, mais Federico c'est surtout le fils d'Enrico, passé par la Fiorentina, par Parme. Et puis il y a un joueur que moi j'adore, mais je pense que beaucoup de personnes l'aiment, non pas forcément pour ses qualités de footballeur, alors que c'était un vrai bon joueur, mais plutôt pour le style et la dégaine. C'est Attilio Lombardo. qui s'est fait connaître à la Cremonese avant de rejoindre la Samp. Vous savez, c'est ce petit joueur un peu gringalet, chauve, qui restait des cheveux que sur les côtés, et qui voulait pas les raser d'ailleurs. Donc ça, c'est pour les joueurs. Et puis du côté des entraîneurs, je vais pas tous vous les faire, mais il y en a un assez marquant, Gigi Simoni, que vous connaissez peut-être pas pour la Cremonese, mais plutôt parce que ça a été l'entraîneur de l'Inter lors de l'arrivée de Ronaldo. Quand Ronaldo arrive à l'Inter 97, Gigi Simoni, c'est l'entraîneur de l'Inter. Et il gagne d'ailleurs la Coupe de l'UEFA contre la Lazio au Parc des Princes. Donc, mine de rien, il y a très peu de saisons en Serie A, mais il y a quand même des personnalités très importantes du football italien qui sont passées par la Cremonese.
Et c'est où Cremone?
Alors, c'est en Lombardie, ce qui fait qu'on aura 5 clubs de Lombardie cette saison, la saison prochaine en Serie A, ce qui est un record. C'est à la limite de l'Émilie-Romagne. C'est en gros à la 1 heure de route de Milan, entre 80 et 100 km de Milan, au sud-est. C'est pas une énorme ville, hein, c'est 70 000 habitants. Malheureusement, pour cette ville, elle est connue pour une chose. J'en avais parlé un soir dans l'after.
C'est pollué, c'est ça?
C'est l'une des trois villes les plus polluées, aux particules fines, selon une étude de l'Agence européenne de l'environnement qui date de l'année dernière. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui joue pour toi, pour ta réputation, pour le tourisme, etc. Les deux autres villes sont des villes polonaises et croates. Et ça s'explique tout simplement parce qu'il y a une très grosse industrie sidérurgique, notamment l'acier, et d'ailleurs le propriétaire de la Cremonese, Giovanni Arvedi, c'est évidemment celui qui contrôle la grande acierie de Cremone. Et donc il y a ça, il y a eu les raffineries Tamoil, vous vous souvenez de Tamoil qui était le sponsor de la Juve sur les maillots, etc. Il y avait cette industrie-là aussi, donc... pour finir sur le côté pas cool, avant de parler de choses un peu plus heureuses, il y a un taux de personnes malades nettement plus haut que dans tout le reste de l'Italie, ouais. Et des maladies graves dues à la pollution. Pour le côté un peu plus culturel, mon cher Nico, c'est la ville des luthiers, ville de naissance d'un certain
Stradivarius.
Antonio Stradivarius. Stradivarius, exactement. Il y a le musée du violon et en plus, l'art de fabriquer les violons est au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc, allez, on a quand même... quelques petites choses qui nous permettent d'aller passer une journée, mais pas plus, à Cremona.
Et bah, juste tiens, un petit mot également.
Avec un masque.
Exactement.
Une bouteille d'oxygène, j'en sais rien, mais ça fait un peu flipper ton histoire. Juste un petit mot quand même sur la saison prochaine, puisqu'il y a quand même une dinguerie qui s'est opérée, c'est la montée de la Cremonese, mais c'est l'annonce du départ de son entraîneur, également Pekia, qui a annoncé, malgré cette montée, qu'il partait déjà.
Alors, totalement à la surprise générale. Ça n'a pas duré longtemps, les fêtes de la montée, puisque lui, rapidement, il a annoncé son départ. Alors les explications, j'avoue qu'il avait fait une lettre ouverte, il s'est expliqué, etc., en disant « j'espère que vous comprendrez », etc. C'est pas hyper clair. Lui, il a dit « c'est une décision personnelle, à un moment donné, il faut savoir se poser, s'écouter, faire des choix difficiles, etc. » Il n'y a pas eu de raison particulière avancée, on va dire que c'est donc des raisons personnelles. Et dans la foulée, il a signé à Parme. Et Parme, c'est le gros club ambitieux pour la saison prochaine. C'était déjà le cas cette saison, mais ils ont totalement raté leur saison. Mais c'est le gros club ambitieux de la Serie B la saison prochaine. Il y a évidemment cette envie, voire même cette nécessité de retrouver la Serie A. Donc Fabio Pecchia, qui a été l'adjoint de Benitez au Real, à Naples, à Newcastle, etc., qui avait fait un très bon passage à l'Hellas Vérone il y a quelques années, là maintenant, il a décidé de zapper la Serie A. Et ça fait un peu penser à Furlan quand il avait quitté Brest pour aller à Auxerre malgré la montée de Brest. Pecchia, c'est un peu pareil. Il a décidé de quitter la Cremonese, de s'asseoir sur la Serie A pour peut-être mieux la retrouver dans un an avec Parme.
Cremonese et son entraîneur déjà parti, ça, le Werder l'a connu au cours de la saison de sa remontée en Bundesliga. Retour à novembre 2021 et au scandale Anfang.
Diese Meldung hat uns soeben erreicht. Die Bundespolizei nennt den Eintrag im Impfpass von Ex-Werder-Trainer Markus Anfang gefälscht.
Der Deutsche Fußballbund hat den ehemaligen Trainer von Werder Bremen, Markus Anfang, rückwirkend ab dem 20. November für ein Jahr gesperrt.
Der Impfpass von Ex-Werder-Trainer Markus Anfang ist offenbar tatsächlich gefälscht. Das wurde jetzt von der Staatsanwaltschaft bestätigt. Der Verdacht habe sich erhärtet.
Le Werder retrouvera la Bundesliga la saison prochaine, mais sa saison en D2 a été marquée par cette affaire de faux pass sanitaire qui concernait son alors entraîneur Markus Anfang. Polo, on ne se rend pas compte, mais ça a fait un buzz terrible cette histoire en Allemagne. Hein.
Ah ben c'est normal, on était en pleine pandémie, il y avait, vous le savez, mais pas qu'en Allemagne, des critiques sur les passe-droits, entre guillemets, des clubs professionnels par rapport à ce que vivait la population au jour le jour. Donc il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire, on a eu la police qui est intervenue, on a posé des questions à ce coach Marcus Anfang, qui était déjà très critiqué d'ailleurs, qui n'avait pas une image très positive en Allemagne, parce que il avait déjà quitté un club où il avait très bien travaillé pour aller directement, on va dire très simplement, chercher le blé à Cologne, alors qu'il réussissait bien. Et là, donc, il s'était relancé au Werder et on l'attendait un petit peu au tournant en disant, comme le Werder était le favori pour la montée, on l'attendait évidemment au tournant sportivement parlant. Et là, c'est pas sportivement parlant qu'on l'a vu. On l'a vu parce qu'il a menti officiellement en faisant un faux pass, tout simplement, pour le vaccin, évidemment. Et tout ça a été scandaleux en Allemagne. Et ça a choqué beaucoup de personnes. Le Werder, évidemment, a pris des sanctions immédiates, parce que quand tout cela a été avéré, il a été licencié immédiatement. Et en plus, comme il était un petit peu en difficulté sportive, eh ben, ça a arrangé un petit peu tout le monde. Mais au moins, ça a été très très clair. Donc il y a une forme de déni dans cet entraîneur, Marcus Anfang, encore une fois, que moi je suis depuis quelques années, parce que je pensais qu'il allait avoir un parcours très intéressant, y compris en Bundesliga à moyen terme. Et donc ça a été le choc de l'année, mais ça a été, en fait, ce choc a été formidable pour le Werder, parce qu'ils sont allés chercher le jeune Ole Werner, qui était la révélation de la saison 2020-2021, qui avait été barragiste avec le petit club d'Holstein Kiel. Il est arrivé au Werder, il a commencé par 9 victoires et un match nul, en passant comme par hasard dans une défense à 3. D'ailleurs, l'effectif était fait comme ça, et le Werder a fini finalement second de la Bundesliga, et donc la retrouve logiquement.
Il n'y a pas trop de changements de prévu du coup cet été, je crois, au Werder, Polo. Hein.
Alors c'est extraordinaire, parce que l'équipe l'année dernière déjà avait à 80% un niveau Bundesliga. Ils ont réussi des excellents coups sur le marché, puisqu'ils ont été chercher l'international allemand Niklas Stark, qui était un peu en perte de vitesse au Hertha, gratuitement. Ils ont réussi à prolonger tous leurs joueurs en défense centrale. Il faut savoir, souvent dans ces cas-là, mais avec mes collègues c'est pareil, lorsque tu descends et que tu as des joueurs qui décident, qui ont le niveau Bundesliga ou première division et qui descendent, en général, il reste un an au maximum pour essayer de remonter, et si tu remontes pas, ils partent gratuitement, quoi. Donc ça pose beaucoup de problèmes. Et là, ils ont réussi à prolonger quasiment tous leurs joueurs, sauf l'ancien Ömer Toprak, l'international turc, qui a décidé de partir. Mais bon, comme il était un peu en fin de règne, c'est pas grave. Ils ont récupéré Pieper, le défenseur central de Bielefeld, et ils ont déjà une équipe pour être très compétitif en Bundesliga cette saison, malgré, encore une fois, les problèmes liés à la pandémie, puisque le foot allemand souffre beaucoup en économie réelle à cause de la pandémie. Et le Werder étant déjà depuis plus de 10 ans en restructuration, a beaucoup souffert. Mais bon, je pense que ça va bien se passer l'année prochaine.
Autre histoire d'entraîneur bien plus glorieuse cette fois-ci, celle de Michel en Espagne. Alors pas l'ancien de l'OM, hein. Non, le Michel qui vient de faire monter Girona en Liga, qui végétait en D2 depuis 3 saisons. Une promotion obtenue au play-off, Girona avait terminé 6e de D2 espagnol. Elle est allée au bout de ses qualifs, et pour Michel, cette montée est différente de celle qu'il a pu connaître avant.
Es diferente. Diferente porque... Joder, son dos eliminatorias muy duras y se respira fútbol de verdad y una pasión de los 4 equipos espectacular y lo hemos conseguido, o sea que estoy feliz porque es que este año hemos empezado muy flojos.
Et ouais, ça transpire le foot, ces playoffs, et c'est vrai que ce Michel, mon frère, c'est l'un des spécialistes des montées en Espagne. Hein.
Alors son vrai nom, alors en Espagne on le connaît comme Michel Primero. Michel Primero de Vallecas, c'était un joueur, ça a été un bon petit joueur de première division espagnole. Michel a été formé au Rayo Vallecano, il a quasiment tout le temps joué au Rayo Vallecano en plusieurs étapes. Donc son vrai nom c'est Miguel Ángel Sánchez Muñoz, à ne pas confondre avec, tu le disais, Michel José Miguel González Martín del Campo, l'ancien joueur du Real et qui était entraîneur de l'OM. Alors c'est vrai que c'est un spécialiste de monter. Alors il a un peu plus de mal pour maintenir les équipes en première division, mais pour les faire monter, il est très fort, puisque ces dernières années, il a fait monter le Rayo, alors qu'il était arrivé lors de la fin de saison précédente, il avait pris l'équipe au mois de février du Rayo, alors que l'équipe était virtuellement en 3e division, il la sauve. L'année suivante, il a fait monter en première division, mais il est viré à cause de mauvais résultats au cœur de l'hiver. Ensuite, il prend Huesca, qu'il fait monter, mais l'année d'après, en première division, les résultats sont pas très bons, il se fait virer. Et là, au terme de, on en avait parlé dans l'after d'ailleurs, sur nos différents systèmes de play-off de deuxième division, de montée en première division, ce qu'il a réussi avec Girona, c'est quand même très 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 fort, parce qu'en plus, ils se sont allés s'imposer lors du dernier match à Tenerife, grande terre de football, avec un très bon entraîneur, Luis Miguel Ramis, et c'était pas évident de s'imposer là-bas, donc gros gros respect pour Michel Primello, qui est un bon mec en plus. C'est un type qui, tu dis, ça sent le football, oui, c'est un vrai mec de terrain, tu vois, tu sens qu'il a de l'herbe sur les crampons. C'est un entraîneur de très bon niveau, mais finalement, plus pour faire monter les équipes que pour les maintenir. On va voir là si... Avec Gérone, il va sortir. Alors c'est Gérone, oui. C'est en français, c'est Girona en catalan, Gerona en espagnol. Donc c'est avec le Girona, il arrive à maintenir cette équipe. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui bénéficie d'un degré de sympathie très élevé en Espagne. Voilà, ça fait partie de ces types qui sont pas des grandes stars, mais que tout le monde connaît, que tout le monde apprécie. Donc finalement, tout le monde était très content de la montée de Girona. Pas forcément pour Girona, qui est pas un club qui est très apprécié en Liga, mais pour Michel Primello, qui est vraiment un mec bien.
Alors justement, Girona qui fait partie du City Football Group, alors avec Man City, Melbourne, New York, Yokohama, Montevideo, 3 également, ou Lommel, aussi en Belgique. C'est quoi la place du club catalan dans la Galaxy City Group?
Alors, il faut dire qu'au départ, il y a quelqu'un qu'on connaît très bien, et que je pense les copains connaissent aussi, Pere Guardiola, le frère de Pep Guardiola, l'agent, qui a été à un moment gros actionnaire. Il reste toujours actionnaire minoritaire de Girona, et c'est l'un de ceux qui avait permis l'entrée de Girona dans la Galaxy City. Oui, c'est un club qui a bénéficié de 15 prêts de joueurs depuis les premiers accords lors de la saison 2015-2016. Le club est officiellement appartient officiellement à City Group depuis 2017, mais il y a eu alors je sais pas par rapport à d'autres si c'est beaucoup ou pas, mais c'est quand même 15 joueurs prêtés depuis 2015-2016. Donc ça fait 7 ans. C'est pas rien, ça veut dire qu'il y a une véritable implication de City, même si au niveau de la communication ça reste le Girona. On parle beaucoup plus de Girona, du club catalan, plutôt que de son propriétaire, quoi. Voilà. Mais dans les faits, oui, il y a des joueurs qui sont prêtés par City à Girona et qui ont des rôles importants.
En Angleterre, l'un des autres promus en Premier League s'appelle Fulham et le joueur de la saison des Cottagers s'appelle Aleksandar Mitrović. On fire, mon cher Julien. Alors, faut dire que le buteur serbe a réalisé une saison historique en Championship.
Ouais, incroyable. 43 buts en 44 matchs. Aussi simple que ça. Jamais personne n'avait marqué autant de buts en Championship dans l'histoire de la division. Incroyable. Alors, des buts. Il tire les pénalties, donc ça lui a rajouté des buts faciles, entre guillemets. Mais dans toutes les positions, dans les airs, bien sûr, il est très très fort, il est très grand. Mais pied droit, pied gauche, la finition extraordinaire. Bien au-delà de ses expected goals notamment, dans une équipe qui était très offensive, de Marco Silva l'entraîneur, qui jouait très très bien au ballon, bien trop bien d'ailleurs pour le reste du championnat, et ils ont gagné des 7-0, des 5-0, des 6-0, enfin, parfois ça a été une promenade. Je crois que d'ailleurs ils ont marqué plus de buts que n'importe quelle autre équipe, encore une fois, dans l'histoire du championship, mais quand même, 43 buts en 44 matchs, c'est juste extraordinaire. Le problème, bien sûr, c'est que c'était en Championship et pas en Premier League.
Alors justement, c'est vrai que sur les 6 dernières saisons, Fulham, c'est une saison sur deux en Championship. Et alors cette question de savoir si Fulham a le niveau Premier League, on se l'impose aussi pour Mitrović finalement. Est-ce qu'il a le niveau Premier League? Ça fait beaucoup débat ça en Angleterre aussi. Hein.
Ça fait gros débat puisque la dernière saison donc en Premier League, c'était la saison avant celle qui vient de se terminer là, 2020-2021. Où il avait marqué 3 buts en 27 matchs de Premier League. Où il avait vraiment, vraiment souffert, vraiment galéré. Mauvais dans la finition déjà, beaucoup moins d'occasions forcément qu'en Championship, mais il avait paru trop emprunté, trop lent parfois même dans la surface, même dans les airs, normalement sa qualité première, il a souffert. Et c'est vrai que le débat, la question, c'est est-ce que c'est finalement pas un extraordinaire joueur de Championship ou de division inférieure entre guillemets, on va dire, et pas trop de l'élite, pas trop de la Première Ligue. La saison donc précédente, celle qui l'a fait monter Avant, c'est Louis marque 3 buts. Il avait marqué 26 buts en 40 matchs de Championship. Donc déjà encore, je crois qu'il avait été meilleur buteur du Championship. Donc voilà, c'est la saison maintenant où il doit s'affirmer, où il doit confirmer finalement ce qu'on a vu en deuxième division, en première division. Il aura 28 ans au mois de septembre. Donc c'est maintenant ou jamais, en gros, parce que si Fulham redescend, s'il a encore une saison très moyenne, voire très décevante, je pense que le débat sera clos. Il y aura plus de débat et on saura très bien que c'est pas un joueur pour l'élite finalement, ce qui serait dommage parce que je pense qu'il a vraiment des belles qualités. Alors l'avantage qu'il a cette saison, c'est que c'est une meilleure équipe de Fulham que celle qui était montée donc il y a deux saisons. C'est vrai, même si c'était un petit peu comme le Werder de Polo tout à l'heure. Mais la saison dernière, c'était à 80%, 90%. Déjà une équipe de première ligue. Ils étaient bien trop forts pour le Championship. Maintenant, est-ce qu'ils seront assez forts pour la première ligue et assez forts pour mettre Mitrovic dans les meilleures conditions? On verra. Ils vont recruter. On a vu qu'Areola allait signer très, très bientôt. Ils vont avoir d'autres recrues aussi. Mais c'est vrai qu'on va avoir les yeux rivés sur Mitrovic et sur ses performances personnelles.
On repart en Italie, on retourne en Lombardie où l'AC Monza a obtenu sa place en Serie A, une première dans l'histoire plus que centenaire de ce club et dont le propriétaire est un certain Silvio Berlusconi. Il Cavaliere était tout sourire après cette montée, euphorique même lorsqu'on lui a demandé quels allaient être les objectifs pour son nouvel ACM.
Vincere il campionato et poi andare in Coppa dei Campioni.
Vaincre le championnat, la Ligue des Champions ce soir, Berlusconi, Johan. Alors c'est vrai que ce qu'il fait avec son fidèle Galliani, c'est fort hein, quand même avec Monza, là, Berlusconi.
Oui, parce qu'on connaît ce duo mythique qui a mené l'AC Milan sur le toit de l'Europe pendant un peu plus de deux décennies maintenant. On sait tous, les Ligues des Champions remportées, la success story évidemment, à travers la success story de l'AC Milan, la success story aussi financière, politique, etc. de Silvio Berlusconi. Et quand il a vendu un peu la mort dans l'âme le Milan en 2007, il a décidé d'investir quelques mois plus tard à Monza, alors qui était d'ailleurs beaucoup plus connu pour le circuit de F1 que pour le football, qui n'avait jamais connu la Serie A. C'est, alors pour faire simple, hein, c'est la banlieue de Milan. Hein, il y a 5-10 km porte à porte entre la dernière ville de Milan, la dernière maison de Milan et la première de Monza. Berlusconi a évidemment décidé de nommer Galliani parce qu'ils sont inséparables à la tête opérative du club. Le duo s'est reformé et on est reparti sur une success story. Alors on verra jusqu'où ça va les mener. Ils sont partis de beaucoup plus bas aussi, ils sont partis de Serie C. Berlusconi a mis aussi quand même pas mal de moyens. Ils sont passés de la Serie C à la Serie A en 4 saisons, donc c'est quand même pas mal du tout. L'année dernière, ça a échoué d'un rien. Alors qu'ils étaient candidats naturels, tout comme cette saison d'ailleurs, parce qu'ils avaient le meilleur effectif de Serie B pour monter directement en Serie A. Mais autant la Cremonese, c'est une énorme surprise, autant Monza, clairement, c'est attendu. Parce que, je l'ai dit, meilleur effectif, beaucoup d'argent, un entraîneur expérimenté. Donc quelque part, c'était attendu, mais c'est toujours pareil. Quand t'es attendu, il faut tout de suite valider, parce que sinon, derrière, ça peut être vite la crise.
Alors Berlusconi disait en ce moment qu'il visait le titre de Serie A et la Champions. Il peut aller jusqu'où, plus sérieusement?
Il faudra peut-être un peu de temps avant d'arriver à ces titres-là ou à ces ambitions-là. La première ambition, c'est Adriano Galliani qui l'a dit il y a 48 heures, c'est clairement de se maintenir, parce que au-delà même de construire un effectif, ils sont bien conscients qu'avec le stade actuel, ils pourront pas aller très très haut. C'est un stade qu'ils essayent de porter à 17 000 places à peu près. C'est insuffisant évidemment pour viser très haut. Donc Galliani a dit, si on se maintient la saison prochaine, derrière on peut lancer un projet pour un nouveau stade, commencer les travaux rapidement, etc. Pour cette saison, ils ont quand même de l'ambition. Je trouve que le maintien, ça serait le minimum, parce que quand je vois les joueurs qui sont recherchés, qui sont à la table des négociations en ce moment, alors ils ont pris Ranocchia de l'Inter. Bon, Ranocchia de l'Inter, c'est la règle italienne. Hein. Si t'as pas ton défenseur de 35 ans, ton défenseur central de 35 ans, t'es pas un club comme un autre. Donc voilà, c'est bon. Maintenant, ils ont coché la case défenseur de 35 ans, c'est bon. Mais ils ont surtout pris Alessio Cragni de Cagliari, qui est quand même le troisième gardien de la sélection italienne. Ils visent des joueurs qui ont soit un haut potentiel, comme Andrea Pinamonti, qui a été très très bon avec Empoli. On parle de João Pedro aussi, encore de Cagliari, qui a quand même mis 47 buts en 3 saisons. Alors certes, il est descendu avec Cagliari là, mais je rappelle qu'il... Bon, après, on peut toujours discuter du choix, mais il a fait ses débuts avec le maillot de la Nationale et contre lors du fameux match contre la Macédoine. Ça s'est pas très très bien passé, mais bref, vieille histoire. Et puis on parle d'autres joueurs d'une quinzaine ou d'une vingtaine de millions d'euros. Donc il y a de l'ambition. On parle aussi de Stefano Sensi de l'Inter, qui est souvent blessé, mais qui est un joueur de classe incroyable au milieu de terrain. Donc de l'ambition ils en ont. De toute façon, Berlusconi, il a pas acheté Monza pour rester en série C. On le savait, hein. Quand il était en série C, il a fait le meilleur effectif de série C. Quand il était en série B, il a fait le meilleur effectif de série B. Bon, avant de faire le meilleur effectif de série A, il faudra sans doute un peu de temps, mais Berlusconi a de l'ambition, a l'argent, même si bon, au niveau business, son business immobilier c'était pas terrible cette année, etc., mais il a quand même beaucoup d'argent. Donc je pense que les tifosi de Monza peuvent s'attendre à vivre des semaines et des saisons à venir plutôt sympas.
La saison prochaine, la Bundesliga retrouvera un autre club qu'elle connaît bien, Schalke 04. Après une saison en D2, l'équipe de Gelsenkirchen remonte parmi l'élite.
Ja, hi, liebe Fans. Hier spricht euer Capitano. Wow, was für eine Saison. Unglaublich. Ups and Downs gehabt, ohne Ende. Aber am Ende haben wir es gezogen. Der Traum wurde wahr. Wir sind wieder erstklassig. Von mir und von den ganzen Jungs. Vielen, vielen Dank für euren Support. Ihr wart fantastisch.
Ouais, les remerciements du capitaine Latza aux supporters de Schalke. Alors Polo, ce qu'il faut dire, c'est que même si Schalke a remporté le titre de Bundesliga 2, leur saison a été très compliquée, marquée là aussi d'ailleurs, comme pour le Werder et l'ensemble du foot allemand, par le contexte économique.
Oui, on en a beaucoup parlé parce que Schalke 04, on va dire, vivait entre guillemets au-dessus de ses moyens. Tout est relatif évidemment quand on voit ce qui se passe dans différents pays d'Europe, mais le Schalke 04 a, en descendant, a été forcé de faire une restructuration de l'effectif très très importante, mais en plus une restructuration financière aussi. Mais pour vous montrer la puissance de Schalke, alors en chiffre d'affaires calendaire 2021, donc 6 mois en Bundesliga et 6 mois en seconde division, le chiffre d'affaires il s'établit à 167 millions d'euros à Schalke. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque je défends la deuxième division comme quoi il faut allemande, comme quoi il faut la regarder, etc. Moi, j'ai un, sportivement, j'ai vécu une saison extraordinaire. Et deux, les clubs qui doivent théoriquement monter font chaque année entre 100 et 150 millions de chiffre d'affaires. Donc, il faut voir ce que c'est. Et quand on compare avec la L1, par exemple, on a le droit de se poser quelques questions sur notre véritable niveau en France. Cette restructuration a été violente de l'effectif. Elle a été réussie, même si dans le jeu, ça a été assez dramatique, à tel point que le coach Gramozis a été remercié à 8 journées de la fin. Et là, eh ben, on va chercher son assistant, Mike Buskens, qui n'est évidemment pas connu du grand public, sauf que Mike Buskens en Allemagne, c'est une légende. Légende de Schalke aussi. Il faisait partie de l'équipe qui avait remporté la Coupe de l'UEFA contre l'Inter en 1997. Donc, c'est ce qu'on appelle un Eurofighter. Il prend la place et là, il enchaîne 7 victoires, un match nul sur les 8 dernières journées. À l'arrache, encore une fois, parce que Schalke, moi, me pose beaucoup de questions sur le vrai niveau de Schalke. Non pas sur la qualité des joueurs individuels, mais sur cette capacité collective à résister en Bundesliga. Ils se sont arrachés. Ils sont allés gagner le titre, encore une fois, avec moins de 2 points de moyenne, d'ailleurs, ce qui est une tendance lourde en Bundesliga, ce qui montre que le championnat est extrêmement dense. Et donc, c'était très, très important sportivement pour un club légendaire comme Schalke de remonter en Bundesliga, mais aussi financièrement. Et là, il se passe la deuxième chose, j'ai envie de dire le deuxième effet qui se coule, c'est que tu dois réussir à nouveau un bon mercato estival avec très, très peu de moyens. Il y a un exemple très simple que connaît Julien, c'est évidemment l'international japonais Itakura, qui a été le meilleur défenseur central de deuxième division. Il appartient à Manchester City. Il y avait une clause à 5,5 millions. Bah, tu vois, Schalke peut pas la payer, là où Schalke faisait les transferts il y a quelques années à 10, 15, voire 20 millions d'euros. Donc, on voit toute la différence qu'il y a aujourd'hui. Donc, ils ont beaucoup de joueurs prêtés, ils ont levé les options d'achat. Ils ont été chercher le défenseur central, notamment, qui était en échec au Hertha Berlin, Schwolow, qui est un des meilleurs joueurs de Bundesliga par le passé en tout cas. Il y a beaucoup de choses à faire. Julien nous parlait évidemment de Mitrovic. Moi, je voudrais vous parler de Simon Terodde, historique buteur de la Zweite Liga allemande, historique dans le sens où il a tous les records. Il a encore mis 30 pions en 30 matchs cette saison. Et le problème, c'est qu'il n'y arrive pas en Bundesliga. Donc, ça va être un énorme questionnement. Est-ce que Terodde va pouvoir planter des buts en Bundesliga? Je vais être très honnête avec vous. Schalke, malgré son formidable public, malgré le stade de plus de 60 000 personnes, en espérant évidemment que le Covid nous laisse tranquille, je suis pas persuadé qu'ils ont l'équipe pour se maintenir en Bundesliga en 2022-2023.
Il y a pas mal de cas en suspens, hein, côté recrutement. Il y a des dossiers d'ailleurs qui intéressent aussi les Français, notamment le cas Harit, hein.
Exactement. Alors Harit, évidemment, c'est l'ancienne politique, donc des salaires très élevés. Ils veulent absolument s'en séparer, au minimum en prêt, mais honnêtement, ils veulent s'en séparer. Il y a Kabak, évidemment, le défenseur central, qui était en prêt en première ligue, qui est revenu. Donc eux, il faut absolument les faire partir. Et puis il y a la question du défaut du jeune international espoir Thion, qui n'était pas toujours titulaire d'ailleurs en seconde division. S'il peut rapporter entre 10 et 15 millions d'euros, eh ben on le fera. C'est-à-dire que là, on est vraiment typiquement dans un club allemand qui est en restructuration sportive parce qu'on doit augmenter la qualité de l'effectif, mais en même temps à une restructuration financière qui empêche le club de viser au minimum la relégation tranquille. Or on parle de Schalke, là on parle théoriquement de la troisième force du football allemand. Ça va prendre quelques années avant de se retrouver dans l'élite, mais c'est vrai qu'au niveau recrutement, si Harit et Kabak, ils sont même pas capables de conserver Harit et Kabak un an, quoi, tu vois. Et ça c'est un peu compliqué, mais c'est la nouvelle stratégie. Schröder, le directeur sportif, a un boulot énorme. Je sais même pas quand est-ce qu'il va pouvoir partir en vacances, mais en tout cas, il va falloir le suivre Schalke l'année prochaine très rapidement, en espérant, évidemment, vu le standing de ce club, qu'il finisse 15e, 16e au maximum barragiste.
Et on termine par du lourd avec le retour en Liga du Real Valladolid, propriété de Ronaldo, l'ex double ballon d'or qui avait promis de se faire les 500 km entre Valladolid et Saint-Jacques-de-Compostelle à vélo en cas de montée de son club.
5 de junho de 2022, 9 horas da manhã, estamos prontos para partir para uma aventura e pagar uma promessa que eu fiz no ano passado, quando a gente desceu para a segunda divisão. Eu fiz uma promessa que se o time voltasse para a primeira divisão, eu faria o caminho de Santiago em bicicleta.
Et on a entendu un Ronaldo qui a donc tenu sa promesse. Alors, faut dire que le Brésilien qui a racheté la majorité des parts de Valladolid en 2018 a été pas mal critiqué depuis, Fredo. Ça n'a pas été simple pour lui, tout Ronaldo qu'il est.
Oui, alors déjà, le chemin de Saint-Jacques, pour expliquer, on aime bien le côté un peu culturel, c'est l'une des plus anciennes et plus mythiques pèlerinages chrétiens. Enfin, aller à Saint-Jacques de Compostelle, c'est hyper important.
Les chemins de Saint-Jacques sont très connus.
Voilà, c'est pour ça. Donc, en plus, on sait que Ronaldo, il est gros parce qu'il a des problèmes de thyroïde aussi, donc c'était pas facile pour lui. C'était un véritable effort, c'était pas rien. Alors, oui, il y a parfois des critiques parce que les gens, ils en veulent toujours plus. Ben, moi, je trouve ça un peu injuste parce que Ronaldo, il gère bien ce club. Voilà, Valladolid est descendu la saison dernière, il est remonté tout de suite. Et ça, c'est un véritable exploit. Parce que sincèrement, le niveau de la deuxième division en Espagne est absolument excellent. C'est très très dur de monter parce qu'il y a une concurrence énorme. Et on voit en général que les trois promus de l'an dernier, ils sont restés en première division. Donc c'est dire qu'il n'y a pas l'écart entre la deuxième division et la première division espagnole est pas énorme. Donc remonter tout de suite comme l'a fait Valladolid, ça montre que c'est un club très bien géré financièrement et très bien géré sportivement. Oui, les gens imaginent que parce que tu as Ronaldo, tu vas attirer les plus grands joueurs du monde. Non, attention, c'est un club historique. Mais c'est un club quand même qui a des moyens limités, qui aujourd'hui a des espoirs de pouvoir se maintenir plus facilement en première division, de faire venir, on va parler tout de suite peut-être des gloires du football.
Alors ça parle
espagnol.
De Dani Alves et Marcelo, voilà. Notamment. Voilà.
Oui, alors mais ça c'est pas idiot du tout parce que sincèrement, Dani Alves a prouvé au Barça qu'il pouvait être encore très utile. Qui a été un peu viré salement, il faut quand même le dire, alors qu'il touchait le salaire le minimum de la première division espagnole, c'est-à-dire 150 000 euros par an. Il est libre de droit, de même que Marcelo qui a terminé son contrat avec le Real Madrid. Valladolid, pour Marcelo, c'est une heure de route, donc il peut continuer à habiter à Madrid. Et puis on sait très bien que si Alves est revenu, c'est parce qu'il adore vivre en Espagne. Donc ça peut être finalement une pré-retraite assez intéressante pour ces deux joueurs et être utile pour le maintien de Valladolid en première division. Moi, c'est un club que j'aime. Attention, c'est pas rien dans l'histoire du football, Valladolid. D'ailleurs, je me demande, vous vous souvenez en 82, quand le Cheik descend sur la pelouse, c'est pas Valladolid? Lors du France, le match
voilà,
contre...
Ouais.
C'est quel match?
Le Koweït.
France-Koweït. Je crois que ça se joue à Soria, à Valladolid. Non, c'est un stade mythique, c'est un club mythique, donc on est tous contents de l'avoir là. Et Ronaldo Nazario, sincèrement, fait du bon boulot. Alors, c'est pas un grand gestionnaire, mais il s'est entouré de gens très compétents. Et ça, vous savez, c'est ce qui compte finalement. Lui, il est là pour filer un petit coup de main pour des recrues. Il est là pour motiver les troupes. Il va dans le vestiaire un coup de temps en temps dans les matchs importants. Il est là pour la com. Mais pour la gestion au jour le jour, c'est pas lui qui le fait. Mais il s'est entouré de gens très compétents. Et ça, c'est un signe d'intelligence de la part de, du meilleur attaquant de football, le meilleur buteur de tous les temps. Ça, ce n'est que mon humble avis. Mais je pense que qui a vu jouer une fois Rolando Nazario le pense.
Voilà, c'est beau, mon Fredo.
Bah ouais. Non, les autres sont d'accord avec moi, non?
Ouais, vous êtes d'accord, les mecs?
Bah, il marque le foot, évidemment. Est-ce que c'est le plus grand attaquant? Je sais pas.
Bien sûr.
Ah, il est d'accord, Julien, en revanche. Johan, il veut pas se mouiller.
D'accord aussi. Ouais, si, d'accord aussi.
Ouais, pour une fois, vous êtes presque tous d'accord.
Ah, mais tu le voir prendre le ballon, tu savais qu'il allait se passer un truc bizarre.
C'est vrai.
C'est génial, enfin, voilà.
Et vous avez vu la vidéo? Il y a une vidéo sur les réseaux, rapidement pour finir.
Vas-y.
Il a joué en 1 contre 1. Un contre un où il est donc, effectivement, il a des problèmes, des gros problèmes de poids, il est assez gros. Mais ses pieds vont à une vitesse incroyable, il fait des doubles contacts extérieur, intérieur, à 2000 à l'heure encore, quoi. C'est hallucinant.
On peut terminer sur une anecdote rigolote.
Vas-y.
Sur Ronaldo. Jorge Valdano me raconte un jour qu'il est directeur sportif du Real. À l'époque, il y avait Casillas dans les buts, Ronaldo buteur. Et en fait, les statistiques de fin de match de Liga montrent que Casillas a plus couru que Ronaldo.
Ah ouais, ah ouais, d'accord.
Et donc il va le voir, et donc le directeur sportif Valdano va voir Ronaldo pour le titiller un petit peu. Il dit, tu te rends compte, les chiffres, t'as moins couru que. Il dit, moi j'y peux rien, c'est un gardien qui a la bougeotte, quoi. Mais il n'a pas besoin de courir beaucoup, hein, donc, extraordinaire ce Ronaldo Nazario.
Merci beaucoup, cher drôle de dame, pour ce nouvel épisode de Podcast Galaxy. Merci pour cette saison. On remercie
Justicos.
Merci Jimmy Brown, Arthur Robert à la production. Merci Julie Deroux à la réalisation. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis cette saison. Ça a été un plaisir, hein, de vous proposer tous ces épisodes que vous pourrez écouter ou réécouter cet été. Bonnes vacances si vous en avez. Et surtout, bisous et prenez soin de vous. À très vite.
RMC After Galaxy, le podcast.
Nicolas Villas.